Compose, épisode 49.
J'ai un très bon moral, on va dire ça comme ça. J'essaie toujours de voir les choses de manière optimiste. Mm-hmm. Et en fait, de par mon parcours, où j'ai été indépendant quand même depuis plus de 10 ans, je me rends compte que je suis aujourd'hui, dans la situation que je vis actuellement, je suis privilégié parce que mon entreprise fonctionne, parce qu'il y a du monde, et que j'ai vécu des moments moins faciles, et que je me dis, dans cette période un peu compliquée, j'ai de la chance. Voilà. Mm-hmm. Donc oui, je suis conscient de où je me situe. Maintenant, oui, il y a des jours où tu te lèves le matin et tu dis, pourquoi est-ce que je me fais encore chier alors que je sais que de tout ce que je vais générer comme... pour parler vraiment dur, c'est tout ce que je vais générer comme chiffre aujourd'hui, je vais quasi tout rendre, soit à l'État, ce qui ne fait pas plaisir, soit dans mes investissements qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement sur la durée. Et puis après, il y a les employés, les charges, tout ça, quoi. Donc, parfois, c'est un peu compliqué de... voir les choses positivement, mais bon.
Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Jacobs, chef de Hors-Champ. Ensemble, on a parlé de son grand-père qui l'emmenait au restaurant quand il était petit, de son premier job dans une cuisine à 14 ans, de la méconnaissance du métier de chef, de sacrifices, d'opportunités, de ses expériences dans d'autres restaurants, d'entrepreneuriat, de sa première étoile qu'il a très mal vécue, du restaurant et du projet Hors-Champ, de fidélité envers les producteurs et productrices, de local, d'envie d'apprendre. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Stéphane d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
Je suis ravi d'être là.
Tu es donc le chef du restaurant Hors-Champ, le propriétaire aussi d'Hors-Champ. Je voudrais en fait que tu m'expliques les tout débuts de la cuisine. Comment est né ton intérêt pour la cuisine ?
Alors ça s'est fait un peu naturellement, parce qu'en famille, donc, j'avais un grand-père qui adorait bien manger. Et pour nos anniversaires, donc pour les enfants, les petits-enfants, ils nous emmenaient respectivement pour l'âge de 6 et 12 ans au restaurant. Mais c'était des bons restos, c'était pas le restaurant de tous les jours. Et en fait, ça nous a... En tout cas, moi, ça m'a mis dans une prédisposition peut-être à apprécier ces moments de table particuliers avec un beau service, avec des beaux produits. Et ça m'a vraiment marqué les deux, parce que les deux fois où j'ai pu, jusqu'à mes 12 ans, aller participer à ce moment-là, c'était incroyable. Puis à côté, il y avait ma mère qui cuisinait à la maison. C'était une maman qui cuisinait quand même pas mal. Ma grand-mère aussi, qui m'a fait manger des produits un peu déjà insolites, comme du foie de veau et tout ça. Elle faisait quand même des choses. Elle allait chez son tripier à Bruxelles chercher les abats. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs assez marquants. Et je pense que l'idée, c'était vraiment de partager le moment de cuisine à la maison quand on recevait des amis à mes parents. Et moi, je donnais un petit coup de main à touiller dans les sauces, à faire les gâteaux, etc., quoi. Donc, c'est vraiment démarré comme ça.
Oui, qu'est-ce que tu préférais faire comme ça quand t'étais petit?
Alors, petit, comme tous les enfants, on faisait beaucoup de pâtisserie.
Ouais.
C'est que plus tard que je me suis lancé très jeune, à aller chez mon cousin. Qui a un traiteur, et mes parents m'ont dit en cours de réorientation en rénové, c'était qu'est-ce que tu veux, t'as envie d'autre chose? Je dis oui, j'aimerais bien faire la cuisine. C'était il y a plus de 20 ans, et à l'époque, faire le métier de bouche, c'était pas le métier rêvé. Il y avait pas Top Chef, il y avait pas toute cette médiatisation, quoi. Et donc du coup les parents étaient un peu réticents, quoi. Ils avaient posé des questions à leurs amis en disant « Qu'est-ce que tu penses? Mon fils, il a 14 ans, il veut faire la cuisine. Est-ce que c'est bien ?» etc. Parce qu'après, c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes, mais ça enferme aussi beaucoup, quoi. Et donc, ils m'ont dit « Si tu veux faire ce métier-là, pas de souci, mais tu vas d'abord aller un peu bosser chez ton cousin, quoi. » Mais j'avais 14 ans, quoi. Donc, c'était avant d'être en troisième rénové, l'âge où on peut vraiment commencer très gentiment à suivre des cours spécialisés. Et donc voilà, j'ai fait un an d'extra comme ça chez mon cousin. Ça s'est bien passé, j'y allais quasi tous les week-ends, quoi. Et puis voilà, et puis après, ben, là, à ce moment-là, j'ai commencé à cuisiner vraiment de manière autonome à la maison, à reproduire ce que j'avais appris le week-end. Enfin voilà, c'était déjà à cet âge-là, je chipotais beaucoup, quoi.
Mmh. Donc là, tu avais plus un rôle un peu de commis de cuisine?
Oui, et puis c'était basique, hein. C'était apprendre à laver une salade, apprendre à couper des oignons, à faire des soupes. Enfin, mais bon, quand j'ai commencé mes études, j'avais déjà un petit bagage qui ont été utiles, quoi. Je savais porter des assiettes pour aller en salle, enfin, des choses comme ça. Et je pense que c'était déjà avoir vu une facette du métier avant de mettre les pieds dedans. Et je sais aussi qu'à l'époque, j'ai été pour la première fois cuisiner à Noël pour les traiteurs, puis à Nouvel An. Et entre les deux, bah, le fameux grand-père qui nous emmenait au restaurant est décédé. Et donc, du coup, il y a eu aussi cette revanche sur la vie de dire, j'ai perdu quelqu'un juste entre les deux. Le meilleur moyen de relever la tête, c'était de continuer à, malgré tout, à aller bosser, quoi. Et donc, je pense que via ce fait d'aller retravailler directement après, bah, ça m'a maintenu dedans et ça m'a motivé à ce moment-là, quoi.
Et à ce moment-là, tu t'es vraiment dit que tu voulais en faire un métier?
Ouais, je pense que j'étais assez décidé, ouais. Enfin, les gens qui me connaissent un peu, ils savent que je suis assez têtu et quand j'ai un projet en tête, si je le réussis pas, si je le mets pas, si je vais pas au bout, ça va me frustrer très longtemps, quoi. Donc là, j'avais en tête de le faire et je pense que il faut s'accrocher, mais voilà.
Oui, parce que c'est pas un métier facile, quoi. Je pense qu'on le voit rapidement aussi.
Bah en fait, c'est pas un métier facile. C'est ce qu'on vous dit quand vous commencez. C'est ce qu'on vous dit en cours de formation. Et c'est aussi ce que vous constatez quand vous êtes dedans. Mais je pense qu'il y a peu de gens, à part les gens qui sont des collègues, qui peuvent vraiment lire les difficultés de notre métier. Ouais. Et ça, c'est vraiment un problème dans la société d'aujourd'hui. C'est que... on en parlera peut-être tantôt, mais on est face à des crises dans tous les sens, et la crise du personnel, la crise de l'emploi, la crise des valeurs humaines qui doivent être respectées, tout ça, c'est des choses qui sont condensées dans notre métier. Et comme l'image du métier est quand même faussée chez beaucoup de gens, y compris nos clients parfois, eh bien, on se rend compte qu'on est en décalage permanent, quoi. Tant sur le... Enfin, par exemple, quand on dit à des clients, ben, vous savez, nous, on commence à 8h du matin ou 9h. Moi, parfois, c'est même plus tôt. Et c'est pour le service du soir. Je croyais que vous commenciez à 16h à cuisiner. Je dis, ben non, vous savez, c'est des heures de boulot, quoi.
Comment ça se fait que les gens ont l'image aussi erronée comme ça de ton métier?
Je pense qu'avant, on a été dans cette ignorance longtemps. On a ignoré beaucoup de choses. On a ignoré dans les années 70, 80, il y avait ces chefs stars qui étaient des monuments. Et on ne se préoccupait pas trop de ce qui se passait à l'intérieur des cuisines. À l'époque, les gens faisaient beaucoup ça par passion et donc acceptaient beaucoup de dérives du métier. Que ça soit, il y a eu des maltraitances, il y a eu la manière de parler aux gens qui était dure, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, quand c'est dans les mœurs, pour en sortir, c'est toujours compliqué. Voilà. Et donc là, maintenant, les choses ont commencé à bouger. Dans un certain sens, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le cadre autour. Et donc, on veut bouger les choses et les mentalités. Ça se fait automatiquement chez les jeunes et chez tout un tas de personnes. Le Covid a aidé aussi à faire bouger les choses. Mais nous, aujourd'hui, en tant que patron et entrepreneur, on n'a pas les outils pour continuer à faire notre métier décemment et continuer à gagner un minimum de notre vie, quoi. C'est compliqué. Donc voilà, nous, on s'adapte et on essaye de faire avec ce qu'on nous donne, mais c'est pas une chose facile aujourd'hui. Et être restaurateur aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, même, comme dans beaucoup de secteurs.
Ouais. Là, tu parles vraiment du côté producteur, mais aussi du côté, justement, les gaz, électricité, tout ce que tu as besoin pour faire ton travail. Tu parles de quels éléments exactement?
Il y a tout. C'est un tout, en fait. Il faut prendre ça comme une grande enveloppe. Et puis, si on décortique, il y a chaque élément. Il y a un élément qui ne bouge pas ou qui bouge peu. C'est le fait que les clients aujourd'hui, quand ils vont au restaurant, ils vont toujours vite trouver ça trop cher, même si c'est un bon resto. Qu'on va toujours remettre en question le prix facturé, comme quand on va acheter une voiture, comme quand on va acheter... Sauf que derrière, il y a vraiment un travail humain. Et l'humain, il faut le payer. Si vous allez dans un bel endroit, il faut entretenir, il faut... Enfin, voilà. Et le fait de remettre en question sans cesse le prix d'un bon restaurant, Même si je suis partisan pour faire de la restauration abordable. Hein, donc moi, je me tue à faire ça tous les jours. Mais ben en fait, le problème, c'est qu'à côté, tout augmente tout le temps. Et que nous, pour maintenir un prix abordable, ben, on est obligé de... Enfin, moi, je suis obligé de travailler plus qu'avant. Mes collaborateurs, j'essaie de les maintenir dans un cadre où leurs heures sont humainement acceptables. Et puis après, il y a l'État qui ne fait pas son travail. Mais bon, ça... c'est, je suis sûr que vous posez, enfin, il y a des fois des interviews que je regarde comme ça dans, pour tous les milieux, et on se rend compte qu'un ministre en charge d'un secteur, parfois sur des bêtes questions, il ne sait pas répondre. Et la restauration, c'est typiquement ça. Ces gens-là vont tout le temps au resto, mais je suis certain qu'ils ne savent pas à quelle heure les employés vont travailler, à quelle heure ils vont se coucher. Ils ne se posent pas la question quand ils prennent un pouce café à minuit et demi, tiens, le gars, il commence à quelle heure demain, et combien ils gagnent par mois, enfin... Et ça, je trouve que c'est la base, quoi. Quand on est responsable d'un secteur d'activité, c'est la base. Et en parallèle, le monde de l'horeca, même s'il y a une espèce d'uniformité, on va dire de cohésion entre les gens du secteur, bah, vous allez dire à un coup, on descend tous dans la rue manifester pour l'horeca, ça ne se fait jamais. Parce qu'aucun indépendant n'a le luxe de pouvoir fermer son restaurant une journée ou deux journées... pour aller manifester et donc ou faire grève, allez, vous demandez ou alors il faudrait que ça soit un mouvement général, quoi. Mais je pense qu'on est un peu mal loti dans les où on entend parler de métiers pénibles, l'horeca n'est pas cité, alors que Dieu sait que c'est un métier compliqué, quoi. Donc voilà, c'est des petites choses où aujourd'hui ça, pour tous les jeunes qui commencent le métier, il faudrait leur expliquer comme ça, et même en l'expliquant, c'est toujours pareil. Il faut, faut vraiment s'y être dedans, quoi, pour ressentir le mal-être qui est dans cette profession et qui, bon, bah, coûte parfois la durabilité de certains restaurants, quoi.
Ouais.
C'est pas, voilà.
Ça t'a parfois découragé ou dégoûté face à ta profession, en fait? Ça t'a donné envie parfois d'arrêter?
J'ai un très bon moral, on va dire ça comme ça. J'essaie toujours de voir les choses de manière optimiste. Et en fait, de par mon parcours où j'ai été indépendant quand même depuis plus de 10 ans, je me rends compte que je suis aujourd'hui, dans la situation que je vis actuellement, je suis privilégié parce que mon entreprise fonctionne, parce qu'il y a du monde et que j'ai vécu des moments moins faciles et que je me dis, bon, dans cette période un peu compliquée, j'ai de la chance. Voilà. Donc oui, je suis conscient de où je me situe. Maintenant, oui, il y a des jours où tu te lèves le matin et tu dis, bon, pourquoi est-ce que je me fais encore chier alors que je sais que de tout ce que je vais générer comme... pour parler vraiment dur, c'est tout ce que je vais générer comme chiffre aujourd'hui, je vais quasi tout rendre soit à l'État, ce qui ne fait pas plaisir, soit dans mes investissements... qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement sur la durée. Et puis après, il y a les employés, les charges, tout ça, quoi. Donc, parfois, c'est un peu compliqué de voir les choses positivement, mais bon.
Et pour revenir à ta formation, du coup, est-ce que... tu l'as dit, on dit que c'est un métier difficile, mais est-ce que, justement, les profs, etc., vous donnent conscience qu'il y a ce métier de cuisinier, mais il y a ce côté entrepreneur indépendant avec toutes les charges, justement, avec les employés
Alors, on vit dans un monde bizarre, encore plus aujourd'hui, je trouve, parce que quand moi, je suis rentré à l'école hôtelière, en fait, indirectement, on te fait comprendre à l'époque que c'est un métier où tu vas devoir te priver de beaucoup de choses, si tu veux le faire d'une certaine manière. Moi, j'étais un petit garçon qui faisait plein de trucs. Je faisais des mouvements de jeunesse, je faisais du tennis, je faisais de la musique, je faisais plein de bazar. J'ai tout arrêté parce que je savais que ça m'a bouffé du temps, quoi, énormément. En plus de ça, nos stages à l'époque, c'était 2 mois quasi non-stop en entreprise pendant 3 ans de suite, et c'était en plein pendant les grandes vacances, donc fini les vacances en famille. Donc il y a déjà, en tout cas à l'époque, il y avait ce sentiment de sacrifice, quoi. Et il n'y avait pas non plus cette question de dire je vais chez le patron et je négocie pour avoir une semaine si une semaine là, non, pas possible. Aujourd'hui, la même école, en fait, a dû s'adapter au monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes qui viennent chez nous aujourd'hui en stage n'ont plus 2 mois Donc ça fait quand même 60, presque, allez, j'exagère, mais ça fait quand même une fameuse période. Mais ils ont seulement 50 services. Donc c'est pour montrer la proportion des choses qui ont changé, et encore, c'est peut-être même moins. Mais donc, en fait, quand moi, j'ai été choqué d'apprendre ça récemment. J'ai dit, mais comment voulez-vous qu'un jeune aujourd'hui ait la même formation que j'ai eue en lui donnant ces codes-là, quoi. Mm-hmm. C'est pas possible. Et donc, on a des jeunes qui arrivent chez nous, ils téléphonent, ils disent, ouais, j'ai bon ça chez vous. Par contre, je pars en vacances là, j'ai ça. Est-ce que je peux pas découper mon stage en quatre? Puis tel jour, j'ai une activité scout, tel jour. Je dis, mais enfin, le jour où tu vas devoir avoir un contrat de travail, c'est pas comme ça que ça va marcher.
Ouais, ouais.
Et donc, ouais, c'est difficile. Et puis même pour eux, on ne sait pas leur transmettre un métier si ils ne sont pas impliqués, quoi. Mmh. Et ce n'est pas de leur faute. Hein. De nouveau, on parle de l'encadrement, mais on remonte beaucoup plus haut que bêtement l'école.
Ouais, ouais, c'est un système.
C'est tout un système qu'il faut remettre en cause. Et c'est même... ça vient de l'éducation avec un grand E. Sans blâmer ni les parents ni autres, c'est juste... de se dire, ben oui, c'est vrai que maintenant, à vouloir tous se protéger les uns les autres et à plus vouloir assumer la dureté d'un problème ou prendre parfois des claques, mm-hmm. ben on va dire, on va aller vers l'école, on va dire, ben oui, mais mon fils a raté, pourquoi? Et puis vous voyez les heures qu'il a fait en stage, il a fait 9h au lieu de 8h, vous trouvez ça normal? Nous, c'est tout le temps comme ça. Et moi, les profs se plaignent, les profs de pratique disent, mais vous imaginez pas les problèmes qu'on a encore maintenant? Ils savent plus non plus faire leur métier transmission. Et ça, tout ça, quand tu mets tout bout à bout, tu te rends quand même compte qu'on est dans un sacré merdier, quoi.
T'arrives encore du coup à trouver des personnes pour travailler avec toi qui sont dans le même état d'esprit que toi, à tout lâcher pour cette passion et à ne pas justement avoir des activités complémentaires comme tu parlais, etc.
Mais il y en a. Et aujourd'hui, grâce à plusieurs aménagements qu'on a fait nous dans notre entreprise, on offre du coup un peu plus de répit, un minimum de répit aux employés, c'est-à-dire que ben ils peuvent avoir 2 jours vraiment off où on les emmerde pas, ils ont 3 jours sur la semaine où ils arrivent un peu plus tard, en tout cas en salle c'est clairement le cas, et en cuisine ils sont un peu plus cool. Toutes ces choses là ça permet d'avoir un confort de vie qui est différent de celui que moi j'ai connu. Après, de là à dire qu'on trouve, on en a, mais c'est rare. Mmh. C'est des perles rares, et quand on les a, on essaie de les garder.
Ouais.
Et quand on les garde, ben, il faut bien réfléchir chaque fois qu'ils demandent quelque chose, voir si on ne peut pas leur faire plaisir en essayant d'adapter les choses pour que ça leur convienne. Mais ouais, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident.
Et la période Covid n'a pas rendu ça encore plus difficile? Parce que justement, il y a eu la fermeture des restaurants, etc. Est-ce que ça n'a pas... Est-ce que justement certaines personnes qui se voyaient dans ce métier-là n'ont pas décidé d'abandonner à ce moment-là?
Ouais, complètement. Après, tous les problèmes dont on vient de parler, c'est des problèmes de prise de conscience collective qui ont été clairement mis en avant pendant cette crise du Covid. Nous, on a maintenu une activité en petit groupe avec une partie des employés. C'est tout de même ces gens-là qui ont continué à travailler, et c'était du traiteur. Ils ont récupéré leur soirée, ils ont récupéré du temps de vie. Et donc, du coup, ben, ils ont goûté à autre chose. Mmh. Mais vous allez poser la question à des gens qui sont passionnés de ce métier et qui ont arrêté pour des raisons familiales ou autres. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui, quand je les croise, ils me disent oh « ben Steph, en tout cas... des fois j'ai envie de m'y remettre quand même, quoi.
Ah oui.
Ce métier est ça te prend des choses, mais ça t'offre tellement d'autres choses aussi que en fait tu peux vite être tiraillé, quoi, en disant moi si j'arrêtais aujourd'hui mon métier c'est pas que j'ai rien, parce que j'ai plein d'autres choses où je suis passionné, mais ça ferait un vide clairement, quoi.
C'est vraiment un métier de passion,
ouais, dans mes journées ça serait... Enfin, moi, je me lève le matin, première chose que je fais, c'est je prends mon café et puis je prends un couteau et puis voilà, quoi. Et puis c'est très vaste, quoi, comme univers, c'est très vaste. Donc, on n'a jamais fini, en fait, avec ce métier-là.
Comment t'as vécu, toi, l'école hôtelière?
Bien et mal. J'étais plutôt un bon élève, voire très bon élève. Donc, j'étais allé là en me disant... bah, t'as intérêt à cartonner parce que c'est important, c'est ton avenir. Enfin, moi, j'étais déjà très terre à terre à l'époque. Mmh. Et puis, donc, j'ai voulu, pendant les 4 ans, faire le meilleur de ce que je pouvais donner. Et puis, à côté de ça, l'école hôtelière, c'est comme beaucoup de techniques. C'est aussi une NAS où beaucoup de jeunes atterrissent là un peu par hasard. Et donc, il y a un décalage énorme entre un élève appliqué qui veut bien faire, qu'on va vite traiter de tous les noms, lèche-botte, lèche-cul, enfin, ouais. Voilà. Enfin, on a 15 ans, donc c'est pas non, enfin, ça peut voler très bas. Et puis, toi qui essayes de construire déjà et d'être appliqué. Donc, moi, je l'ai pas très, très bien vécu. Mmh. J'ai tenu les 4 ans. À la fin, ça allait mieux parce que tout le monde avait un peu grandi et moi, à 18 ans, t'as quand même, t'as un respect aussi différent pour les gens.
Ouais.
Mais la vraie revanche, elle est maintenant quand j'ai des gens qui m'ont croisé à cette époque-là, qui étaient bah, soit plutôt moqueurs, soit plutôt taquins, et maintenant de voir à quel point ils peuvent être soit pas surpris, mais ça leur en fout un peu une claque quand même,
ah, oui,
un revers quoi, de la vie, de dire bah, tiens, toi t'as réussi. Mais je dis oui, bah, enfin, moi je savais que j'allais réussir et je l'ai fait quoi. Voilà. Après,
c'est vraiment ça qui te faisait tenir aussi face aux critiques des autres.
Ouais, bah les critiques, c'est les gens à qui on donne des compliments tout le temps, c'est pas des gens qui avanceront.
Mm-hmm.
Si tu, au début, c'est clairement les critiques des gens, le regard des autres qui m'a fait évoluer.
Ouais.
Et cette impression de pas être assez bon, beaucoup. Et puis après, parce que dans toutes les brigades, enfin dans beaucoup d'endroits où j'ai été, je me sentais pas aussi bon que les gens avec qui je travaillais. Pourtant, j'ai des excellents contacts avec mes anciens patrons et ils m'ont toujours soutenu et ils m'ont toujours fait comprendre que je faisais bien mon travail. Mais je veux dire, à ce moment-là, en tout cas, le sentiment, c'est de dire, bon, allez, il faut y aller, il faut encore plus donner. Et maintenant, c'est plus comme tu prends le rôle de patron, de responsable, c'est plus à toi de te mettre la pression sur et d'avoir une autocritique assez acerbe, de dire... Voilà, maintenant, c'est à toi de savoir poser le curseur et savoir ce que tu veux ou ce que tu veux pas.
Mmh.
Et sans être non plus une crasse avec les gens avec qui tu travailles, quoi. Mais c'est toujours de monter l'exigence un peu plus haut quand c'est possible, pour avancer, quoi, simplement.
Et quand t'es sorti de l'école, t'as directement trouvé un restaurant où travailler ?
Bah oui, j'ai eu de la chance... ou pas, je pense que si je devais résumer les 5 ans, même peut-être après encore, c'est que je suis hyper opportuniste. Dès que j'ai une opportunité qui m'intéresse, je la prends et je me pose pas de questions.
Excellent.
Donc du coup, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai fait mon stage en dernière année dans un 2 étoiles qui était dans les Ardennes. Puis le patron est venu aux qualifications de fin d'année. Il m'a recroisé dans un couloir, il m'a dit « Tiens, justement, si ça t'intéresse, je peux te proposer une place. » Mais par contre, c'est genre, vraiment, je finissais le 15 juin et je devais commencer le 23, quoi. Donc, j'avais pas de vacances, voilà. Mais j'ai dit « Ok, je prends.
Mm-hmm. »
C'était une super place. Même si c'était en pâtisserie, moi, je m'en foutais. Je voulais avoir une bonne place. Et donc là, c'était parti, quoi. J'ai directement été travailler. J'ai même pas eu une semaine de congé, à peine. Et puis j'ai fait un an et demi là-bas. Et puis après, j'ai provoqué un peu la chance pour mon deuxième boulot en envoyant des CV dans des 3 étoiles en France parce que je voulais voir autre chose. Et puis, j'en ai eu un qui a répondu. Bah, j'étais voir le chef, j'étais voir Monsieur Rollinger. J'ai été surpris de la manière dont il m'a reçu parce que c'était très familial et très encourageant, quoi. Et puis, je me souviens, il est monté voir sa collaboratrice, Fabienne. Il est monté au bureau et puis il fait « Ouais, Fabienne, le petit belge, je l'engage, c'est bon. » Je dis « Allez, sympa. » Et après, c'est aussi nouveau des choses que j'essaie d'expliquer aux jeunes aujourd'hui. C'est que moi, quand je suis allé là-bas, j'ai demandé, entre guillemets, à avoir une place dans le 3 étoiles, Michelin. C'est un peu le Graal de pouvoir travailler dans ce genre d'établissement. Et souvent, ça ouvre des portes pour la suite. Et lui m'a dit gentiment, il me dit « Écoute, j'ai pas de place au 3 macarons maintenant, mais dans la brasserie, si tu veux, tu peux aller, quoi. » Et beaucoup aujourd'hui, parce que c'est un monde qui fonctionne comme ça, aurait certainement dit « Oh non, moi, la brasserie, non, j'ai pas envie.
Oui. »
Moi, j'ai pas dit ça, j'ai dit « Ok, j'y vais, je veux vraiment y aller. » Et donc, j'ai commencé dans cette brasserie, qui en fait n'était pas une brasserie, mais était c'est peut-être le restaurant où j'ai appris le plus parce que c'était tout rentré entier, les quantités de produits étaient incroyables. On débitait des Saint-Jacques, tous des produits de la mer, mais en quantité énorme, quoi. Mm-hmm. Donc, et puis j'ai eu un chef génial là-bas, donc du coup, ça change toujours la donne, quoi. Et puis après 3 mois, mon chef vient me trouver, il dit « Bon, on a une bonne équipe ici, si vous voulez, j'ai négocié avec le grand patron que vous fassiez une tournante aux 3 étoiles. » Et donc finalement, j'y suis allé. Donc au final...
Ouais, donc t'as bien fait.
Voilà, tu te dis toujours... Et puis moi, j'ai même encore été plus loin. J'ai eu après, une fois que je travaillais dans le resto, comme je dis, je suis opportuniste. Donc un jour, j'entends parler qu'il y avait un événement à Paris avec le chef. Je dis, il y a moyen de venir ou moi, je veux bien, gratos, je viens donner un coup de main.
Excellent.
Et puis ils m'ont dit, je demande au chef. Et c'était incroyable. J'étais avec le monsieur Rollinger, son second et son autre second. Mm-hmm. Et moi, j'avais rien à foutre là. Mais c'était super, quoi. Donc, c'est des moments de vie partagés dans des conditions un peu spéciales avec qui m'ont marqué. Et puis après, ça, tu te dis, voilà, c'est comme ça que j'aimerais que mes employés parfois agissent dans mon entreprise. Mm-hmm. Et il y en a qui le font, il y en a qui le font moins. Mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Puis après, c'est toujours des. Tout ce qui a été pour la suite, pour l'ouverture de mon resto, ça a été aussi de dire on saute sur une opportunité pour le premier restaurant. Puis là, ouais, j'ai jamais vraiment dû beaucoup chercher, quoi. Mm-hmm.
Et pourquoi tu avais cette volonté de travailler en France ?
En fait, j'ai vu un reportage sur ce chef-là et je le trouvais incroyable mm-hmm. dans sa manière de parler, dans sa manière de voir les... Il était visionnaire, il travaillait les épices. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça, je ne saurais pas dire pourquoi ça me fascinait autant. Je pense que le reportage était particulièrement bien fait aussi. Mais humainement, il ne m'a pas déçu parce que c'était vraiment le personnage que j'avais envie de rencontrer. Donc voilà. Et puis après, l'histoire... Enfin, à la maison avec mes parents, moi, j'étais... En fait, mes parents n'ont jamais compris... Enfin, maintenant, ça va, mais... entre mes 18 et mes 23 ans, avant que j'ouvre mon premier resto, ils n'ont jamais compris mon métier. C'était, je rentrais et pour eux, c'était pas concevable de faire 70 heures dans une semaine, par exemple.
Ah oui, oui.
Et donc, tu rentres, t'es lessivé, t'as plus de vie avec tes potes depuis des semaines et t'as une grosse soirée qui est prévue un dimanche, tu dis, j'y vais, je fonce. Et puis, je rentrais dans des états comme on peut se mettre quand on est jeune. Et ça, mes parents ont eu du mal à... Mais j'étais le premier, donc voilà, j'ai toujours dit...
Ouais.
Ton fils qui a 18 ans se met une torgnole, comme on dit. ça peut être vite mal perçu. Et enfin, voilà, après... ça a été pas facile avec mes parents pendant 3-4 ans ou 4-5 ans. Ma grand-mère, pareil, je me souviens, un jour, on va manger chez elle, puis elle me dit... en tout cas, tu travailles beaucoup, hein. Et je dis, oui, c'est vrai, mamie, je travaille beaucoup... Et puis j'explique un peu, mais vite fait. Et puis elle me dit, mais tu dois bien gagner ta vie. Je fais, non, oui. Peut-être pas. parce que c'est ça aussi, c'est la réalité. C'est qu'on nous demandait de faire des horaires. Et puis après, ça reste un salaire d'ouvrier, quoi. Mm-hmm. Donc, mais j'apprenais. Donc, c'est ça qui m'intéressait. C'est comme ça qu'à l'époque, on pouvait voir la chose. Aujourd'hui, il ne faut plus réagir comme ça. C'est obsolète, ce mode de fonctionnement-là.
Et ils se rendaient compte quand même que c'était eux aussi qui t'avaient transmis cette passion pour la cuisine ?
Oui, mais je suis pas certain que. Enfin, il y a eu ce démarrage avec eux, mais je pense que la vraie passion, elle est venue petit à petit quand j'ai commencé à vraiment fréquenter des restaurants plus haut de gamme où je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, l'idée de tout faire maison, moi, c'est un truc qui m'a toujours obsédé parce qu'il y a des choses quand on sort de l'école hôtelière, on ne se dit pas « Ah, mais ça, on peut faire soi-même. » En fait, on peut tout faire soi-même. C'est juste une question de temps, une question de prendre le temps. Mm-hmm. Mais tout, au fur et à mesure des années qui passent, je me rends compte que je me lance dans des trucs de plus en plus farfelus parce que je me rends compte que tout est faisable. Il n'y a pas de limite, quoi. Donc, on peut faire fermenter tout ce qu'on veut. On peut faire saler, saumurer, sécher tout ce qu'on mm-hmm. veut. Et c'est, du coup, on crée une dimension, on crée un univers qui devient de plus en plus abouti et de plus en plus personnel, quoi. Mm-hmm. Parce qu'aller acheter une bouteille de sauce soja ou une bouteille, d'un vinaigre au supermarché ou chez même un bon producteur, hein, c'est pas la même chose que de faire soi-même le produit.
Ouais.
Voilà. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'essaie de trouver soit des produits qui n'existent pas. Et c'est pour ça que le projet ici est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite, quoi, pas de barrière.
Et donc, tu es resté combien de temps en France avant de revenir en Belgique ?
Une bonne année. Je suis rentré, puis j'ai fait mon dernier restaurant où j'ai bossé, c'est chez Matagne, aussi, à l'époque au Cingril. Ça a été 2 ans riches parce que j'ai eu chaque fois un choc des cuisines. C'était 3 styles très différents.
Ah oui.
Donc je suis arrivé dans une cuisine très contemporaine, très moderne, très figée aussi, où en fait c'était très technique, plus technique. Alors qu'avant c'était plutôt une cuisine de produits. Là on avait des beaux produits aussi, mais il fallait toujours que ça soit carré, que ça soit machin. Ouais, ça m'a appris la rigueur d'une certaine manière. Et là j'ai pris beaucoup de plus de responsabilités dans la cuisine, et ça c'était intéressant pour moi parce que après 2 ans j'avais vraiment un chouette poste. J'avais entre guillemets le poste que j'avais de nouveau, je m'étais donné d'avoir comme objectif, donc j'étais content. Mais c'était aussi une expérience chouette. Puis après, à côté de ça, dans ma vie personnelle, j'avais 21 ans, j'avais acheté un appartement, j'avais déjà fait des projets de vie qui sont précoces, quoi. Et je retapais tout chez moi, moi-même. Donc, ouais.
C'est courageux, en plus de ce boulot.
Ouais, je faisais ça pendant mes week-ends et pendant mes vacances. Donc, ouais, voilà. C'était des 2 ans assez chargés, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et tu avais toujours dans l'optique d'ouvrir ton propre restaurant ?
Oui, je pense que j'avais cette optique-là, mais pas si jeune. C'est parce que j'étais dans une cuisine avec un de mes meilleurs amis maintenant, Romain, qu'on était très potes, et qu'un jour, je sais plus comment on est arrivé à parler de ça, mais on dit, ah bah tiens, y a une troisième personne qu'on connaissait, moi je connaissais pas, lui connaissait un peu, qui avait proposé à Romain un projet, quoi. Il dit, bah tiens, y a un restaurant à remettre, ça vaut la peine. Enfin, on croyait à l'époque que ça valait la peine, et donc du coup on dit bah lui il voulait pas le faire sans Romain parce que Romain l'avait rencontré dans un autre resto, et Romain dit moi je veux pas le faire sans toi, donc du coup on s'est mis à 3, et puis voilà, et puis on a lancé de nouveaux opportunités, hop on la prend, et puis on est parti sur ce projet là très bonne école, parce que du coup on se mange des murs et des retours un peu dans tous les sens. Première ouverture, première expérience d'être indépendant. Donc, moi, ça m'a convenu tout de suite parce que j'avais la mentalité qu'il fallait pour. Romain, on s'est toujours dit on l'aurait fait à un autre endroit, dans un autre cadre, et peut-être pas associé avec les mêmes gens.
Ouais.
Peut-être ça aurait pris une autre tournure et il aurait peut-être continué plus longtemps. Mais lui a voulu une fille de famille un peu plus, enfin hyper centrée sur sa famille, et donc c'est un choix évidemment que moi j'ai respecté très fort. Et donc là, après 4 ans, nos chemins se sont croisés, quoi. Se sont séparés,
oui.
Ouais, mais on est resté hyper hyper potes. Mais c'est sûr que les 4 ans là, ça a été, c'est là quand je parlais tantôt de période de vie où aujourd'hui je me rends compte de la chance que j'ai malgré les complications actuelles du métier. C'est que là, on en a quand même chié, quoi. Où tu lances un resto, où t'as des services où tu fais personne.
Ah ouais.
C'est beaucoup de remises en question, c'est beaucoup de... ouais. Et puis même dans l'association même, ça crée des tensions parce que, on devrait faire ça. Ouais, mais j'ai pas envie de me faire chier. Regarde, ça marche quand même pas ici. Enfin, blablabla, je passe les détails. Et moi, ça m'a peut-être tué pendant 4 ans à devoir tenir, mais par contre, après, ça te donne une force incroyable, quoi.
T'as l'impression d'avoir appris beaucoup pendant ces 4 ans ?
Ouais, blindé. À la dure, quoi. Parce que du coup, si ça avait été facile, si on avait gagné plein d'argent, qu'on aurait peut-être dû être moins pointilleux sur plein de détails pour pouvoir tenir... en fait, je pense que j'aurais pas eu l'attitude que j'ai aujourd'hui par rapport à un tas de trucs. Donc, comme quoi être dans des postures un peu compliquées, ça permet d'avoir un autre angle pour la suite. Et ouais, paradoxalement, il y a on a eu la chance. Là, on a ouvert ce resto, on n'était pas connu. Puis après 1 an et demi, on a eu cette chance. Certains disent malchance. Moi, je dis c'est juste de nouveau. À l'époque, c'était un peu imprévu, c'est d'avoir une étoile au Michelin, donc on dit, moi, ok, ça nous tombe dessus, super. Moi, je l'ai très mal vécu,
ah oui.
6 premiers mois, c'était horrible.
Et pourquoi tu l'as mal vécu ?
Je ne la méritais pas, mais je l'ai bouffé, ce truc-là, pendant 6 mois, du coup, je me mettais encore plus à travailler pour me dire, allez. Et j'avais un de mes meilleurs amis, qui est toujours un de mes meilleurs potes maintenant, qui est restaurateur, Damien. Et je suis toujours, à cette époque-là, c'était des discussions où moi, je disais, mais putain, pourquoi toi, t'as pas cette récompense? Tu le mérites plus que moi, parce que c'est un grand cuisinier. Et que moi, à l'époque, j'estimais pas avoir droit à ce genre d'égard, quoi.
Et aujourd'hui, tu penses toujours ça?
Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que je m'en fous un peu, mais pas que de ce guide-là, de toutes les récompenses. Ouais. Moi, je cours plus après ça depuis longtemps. L'important, c'est que mon restaurant soit vivant, soit à mon image, que je puisse faire passer ce que moi j'ai envie de mettre dans les assiettes. C'est pour ça qu'on travaille avec ces formules qu'on a chez nous, c'est-à-dire menu à l'aveugle, voilà. Et les récompenses suivent, tant mieux, elles suivent pas, tant pis. Mais globalement, on est gâté, quoi. On a des belles cotes, on a une bonne médiatisation de l'endroit parce qu'on ment pas aux gens aussi. Mm-hmm. Tu vois, on n'est pas dans de l'esbrouf, on n'est pas dans du. Chaque projet qu'on lance, on le fait à fond. Tu peux appeler tous nos fournisseurs et tous nos producteurs, c'est tous des gens avec qui j'ai une entente qui est nickel, parce qu'il y a vraiment des vrais échanges de fond. C'est pas juste dire on fait genre pour les guides, quoi. Ça, on veut pas, quoi. Enfin, moi, je travaille pas comme ça et je l'ai jamais fait, mais voilà. Si ça tombe aujourd'hui, ça tombe. Ça tombe pas, tant pis. Ça change rien pour moi.
C'est plus sain, cela dit, de fonctionner comme ça.
Ouais, complètement. Et ça a tué ou détruit beaucoup de chefs ou beaucoup de restaurants. Ouais. Parce que t'as plusieurs cas de figure. Soit c'est des restaurants. Qui cherchent absolument à avoir mais alors c'est très comique parce que certains diront dans le métier que le guide Michelin, par exemple, l'étoile aujourd'hui a moins de valeur pour le public.
Ah oui.
mais garde une valeur d'ego, dans le monde de la gastronomie. Mm-hmm. Donc apparemment, je dis bien apparemment puisque moi c'est pas mon cas, mais il y a quand même un ego à avoir, à rentrer dans ce cercle déjà, deux, trois étoiles. Mmh. Et puis une fois qu'on y est, après, ils se regardent parfois un peu tous en mode on fait partie du club. Moi, j'y serais tant mieux, j'y suis pas tant mieux, ça change rien. Et j'ai des chefs étoilés qui sont des connaissances avec qui ça se passe très bien. Et s'ils regardent mon restaurant bizarre, tant pis pour eux. Enfin, je veux dire. Et puis voilà. Je ne sais plus de quoi on parlait avant par rapport aux récompenses, mais voilà, moi je pense qu'il faut faire son taf et puis après ça vient, c'est comme ça.
Et du coup, là on est chez Orchamps et c'est en 2016 en fait que tu as découvert cette ferme. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais t'installer ici?
Alors, je me souviens, donc j'étais dans une phase où je travaillais pas loin d'ici, qui est donc c'est ma région où j'ai grandi. Et puis je passe devant, je cherchais sur internet des lieux, j'en avais visité un ou deux. Plutôt dans un, ça c'est rigolo parce que c'était plutôt dans un esprit de dire, je veux un truc pas trop grand avec quelques chambres pour dire d'avoir un truc où je peux un peu gérer ça en petite équipe, mais cool. Et puis j'avais visité une ou deux baraques, une maison qui était incroyable dans les champs. Mais il n'y avait pas d'eau courante, c'était assez limité, quoi. Et puis un jour, je vois cette ferme, je regarde plusieurs fois, je me souviens, je retourne sur la page plusieurs fois, elle n'était pas très chère. Je dis, c'est bizarre, je vais quand même aller voir parce que ça me paraît une belle opportunité, quoi. Mm-hmm. Et puis j'avais appris de ce que j'avais ressenti dans mon ancien resto, qu'il y avait des éléments clés pour commencer une entreprise. Et la première chose où je m'étais dit, mais t'as intérêt à remplir ce critère-là, sinon c'est mort, c'est la localisation, quoi. J'avais dit ça, si je prends un truc, ça doit être méga bien mis, etc. Et j'arrive en voiture, je vois le truc, je fais, putain, c'est trop bien. C'est hyper bien mis, déjà, ça partait bien. Puis je rentre dans la cour, c'était en plein mois d'avril, il faisait magnifique. Les arbres étaient commencés à être en fleurs, c'était incroyable, l'endroit était super beau. J'ai dit, je pense qu'il faut faire quelque chose ici, c'est pas possible de passer à côté. Et donc, là, ça a été un fameux chemin, parce que moi, j'ai cette fierté de me dire que j'ai beaucoup fait par moi-même, mm-hmm. Que j'ai pas eu de... j'ai pas hérité de centaines de milliers d'euros, j'ai pas voilà, chaque chose je les ai construites petit à petit. Après il y a toujours eu des petites aides, mais c'est très minime par rapport à la taille des projets pareils. Et donc du coup c'est beaucoup des économies, et enfin voilà, et jamais s'arrêter de bosser quoi, même moi, entre les activités je faisais des trucs. Et ici donc la première chose c'est construire un projet. Donc c'était voilà, dire là j'ai envie de faire un restaurant, dans cette partie là c'est faire une salle d'événement, dans cette partie là des chambres d'hôtes. Et bizarrement la composition qui est aujourd'hui celle de l'activité est quasi la même déjà que depuis le départ. Donc, on n'a pas vraiment changé de plan. On a rajouté des trucs, on a modifié des trucs, mais globalement, ça fonctionne quand même comme c'était prévu. Donc avec ce business model, j'ai été voir... Enfin, d'abord, le but, c'était de trouver des investisseurs. Alors, il y a eu une histoire sur laquelle je ne vais pas m'étaler, mais où les premiers, ça est tombé à l'eau. De nouveau, histoire de vie où on apprend beaucoup de choses. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un gars qui est toujours, qui est mon investisseur, mon co-investisseur actuel. Et où là, c'est génial parce que c'est un monsieur d'une septantaine d'années qui a entrepris lui-même plus jeune et qui a dit, moi, je crois dans ce projet. Il était déjà venu manger chez moi plusieurs fois. Et puis quand je lui ai exposé les choses, il a senti que j'étais quelqu'un de sérieux. Et puis il a participer ce qu'il fallait pour que ça soit faisable quoi.
Et c'est
un choix de sa part qui est encore aujourd'hui je serais pas déjà j'aurais envie de le faire avec personne d'autre qu'à l'époque, et puis même aujourd'hui c'est on sait pas rendre ça, c'est impossible. Cette opportunité qu'il a permis de faire tout ça, après moi mon boulot c'est de faire en sorte aujourd'hui que ça tourne, mais
ouais, c'est ça.
Voilà.
Et ça a mis combien de temps pour faire les travaux, pour que ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui ?
Donc on est en 2016, 2017, 2018. Bon, c'est 2 ans et demi entre le moment de la première visite, la signature des compromis, les plans, et puis les travaux en eux-mêmes ont duré presque 1 an et demi. Mais à savoir que les travaux, les enveloppes budgétaires étaient quand même énormes. Et malgré ça, par exemple, si nous, on n'avait pas fait... nous-mêmes des choses, la cour serait encore en l'état. Donc en fait avec Antoine qui est un de mes collaborateurs, voire le collaborateur hormis ma femme le plus proche dans l'affaire, on s'est mis presque 3 mois avant l'ouverture à faire tous les abords. Donc on a remaçonné les murs, on a défoncé tout le jardin pour faire la cour qui existe aujourd'hui, fait les terrasses, tout ça on a fait nous-mêmes. Donc de nouveau les gens parfois rentrent ici, disent ouais, putain c'est quand même cool, mais ouais, mais on en a bavé quoi.
Ouais,
énormément. Et c'était pas des journées de 8 heures, hein.
Mm-hmm.
Donc on commençait en général à 8 heures et on terminait à 21 heures tous les jours pendant 3 mois quoi.
Mm-hmm.
Donc voilà, il fallait les taper les jours.
Ouais. T'es fier de ce que vous avez réussi à faire?
Ouais, je suis fier. Ma plus grande fierté c'est quand je sors dans un samedi ou un dimanche, que je sors de chez moi, que je vois que j'ai des gens à la boulangerie le matin, puis que je vais commencer ma journée, puis que j'ai les mariés qui arrivent pour la salle, puis que j'ai mes clients qui arrivent le soir, et que je vais dormir, et que je dis « Ah, c'était une journée où tout a fonctionné, où tout était en activité. Ça, c'est chouette de se dire « On y arrive, quoi. » Et ça fait 2 ans que... ça fait 4 ans qu'on est ouvert, mais ça fait 2 ans que tous les pôles fonctionnent d'une certaine manière. Et puis après, c'est un terrain de jeu, donc il y a des événements qu'on fait à l'année qui sont particuliers, quoi.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est vraiment gai de pouvoir faire ça chez nous.
Ouais, on va revenir sur les différents pôles, mais d'abord le restaurant. Il y a vraiment tout un attrait qui est très important pour, en tout cas, ça se ressent quand tu viens ici, c'est le local, quoi. Les producteurs locaux, mais aussi les artisans locaux, avec toute la vaisselle faite par Kim Verbeek, par les couteaux de la coutellerie de Jean Blou. C'était important pour toi, comme ça, de faire vivre vraiment tout ce qu'il y a autour de toi?
Ouais. J'ai tiré l'enseignement de mon premier restaurant où je me dis, oui, il faut créer une âme. Une âme, ça va vraiment à l'essence même de ce qu'on entreprend.
Ouais.
Donc chaque élément a été réfléchi. Déjà, il n'y a pas eu de décorateur qui est passé ou quoi. Ça a été fait chaque fois, moi, avec l'artisan en question, même avec l'architecte. Hein, mais c'est toujours des décisions qui ont été faites en interne, de dire, OK, on réfléchit à comment est-ce que nous on voit les choses et on les met en pratique. Mais donc chaque élément a été réfléchi ou récupéré ou dealé avec des acteurs de la région, quoi. Et donc c'est passé par les tables, les vieux fauteuils qu'on a restaurés. Dans les chambres, c'est la même chose. Tous les meubles sont chinés et retapés par la ressourcerie namuroise. Et puis on a aussi, parfois c'est rigolo, mais Kim par exemple, c'est un partenariat qui est commencé avant le resto. Et j'ai été son premier restaurant à lui acheter de la, de la poterie. Donc c'est une histoire quand même particulière. Donc on a permis de lancer des gens aussi. Là, les couteaux, bon, ici on travaille avec un autre coutelier en plus parce que l'idée c'est pas de s'arrêter à un seul partenaire. Mais les couteaux, bah, c'est aussi une histoire où j'ai été voir ce monsieur qui a quand même presque 60 ans ou peut-être même 60 ans. Et j'ai dit, bah, moi j'aime bien votre modèle de couteau, mais c'est un couteau pliable, il me faudrait un couteau à lame fixe. Et il me connaissait de la région, et donc je l'ai, entre guillemets, d'abord incité à lancer ce couteau-là. Ouais. Ce couteau-là n'existait pas avant qu'Orchamps existe. C'est lui qui a, à un moment, dit « Ok, je vais prendre le pari d'acheter les lames et de monter les couteaux, etc. » Et maintenant, ben, il en vend à plein d'autres restos. Mais nous, on a de nouveau été le moteur, peut-être, pour lancer un projet. Et ça, je pense, sans vouloir parler à sa place, que ça a redynamisé aussi sa boutique d'une certaine manière. Ouais. Donc, tant mieux. Mais je pense que chaque chose, il faut les voir comme ça. La fidélité avec laquelle on travaille avec nos producteurs, ben, ça permet d'avoir des produits particuliers, ça permet d'avoir des... ça peut aller très loin, en fait, comme réflexion. La truite, ben, quand ils ont des œufs de truite frais, ils me les gardent. Or, ce n'est pas un produit qu'ils sont censés faire. C'est parce qu'il y a un échange, un partenariat sur le long terme. Le producteur d'agneau, si j'ai besoin de parties spécifiques, même si on travaille beaucoup en viande entière, ben, ils vont se décarcasser, c'est le cas de le dire, pour aller chercher le produit, quoi. Donc, la fidélité, c'est important.
Ouais, ouais. Et du coup, tu as été les voir un par un, ces producteurs, au début, quand tu as lancé Orchamps ? Comment tu as fonctionné ?
Ça s'empile. Ça veut dire que ça a commencé déjà avant le restaurant.
Ah, oui.
Et puis d'année en année, bah, c'est des contacts qui se font. Ce qui fait que maintenant, on est à, je crois, beaucoup. Parce que dans la pièce ici, ils sont tous au mur. Mais ouais, on a facilement 25 partenaires suivant les saisons, suivant les produits. Et ça continue de grandir, quoi. Donc, il se passe parfois le mot. Puis, moi, parfois, il me manque vraiment quelque chose. Donc, je vais faire des recherches. Il y a un gars qui a fait des canards, mais je lui ai demandé de faire des oies. Alors, il fait des oies maintenant. Mais de nouveau, c'est une demande de ma part en me disant, ben, j'arrive pas à trouver ce produit-là chez nous, en local. Donc, il faut faire quelque chose. On trouve la bonne personne et lui fait un super travail dessus. Et puis ça donne quelque chose de bien.
Et puis toi-même aussi, ici, tu produis aussi des légumes pour le restaurant, quoi. Pourquoi c'était important de rajouter ça, la partie... de cultiver toi-même.
Peut-être parce que, de nouveau, d'aller au fond des choses, quoi.
Ouais.
Et ça me permet de comprendre la saisonnalité d'une bien meilleure manière que quelqu'un qui n'a pas de jardin. Ça veut dire que, bah oui, en fait, des aubergines au mois d'octobre, il y en a. C'est juste qu'il faut, à ce moment-là, il faut les mettre en conservation. Il faut aider les maraîchers à vider les serres. Tomates vertes. Va faire un marché ou demander à un grossiste des tomates pas mûres, il va te regarder, il va faire « mais moi je vends pas ça ». Pourtant, c'est ce qu'il y a le plus au mois de septembre. Et donc, c'est tout des produits que je n'aurais jamais pensé à travailler avant. Et grâce à l'échange qu'on peut avoir avec des maraîchers, mais aussi parce qu'on a un jardin, on se rend compte que nous, on n'aime pas jeter, donc forcément, on fait avec ce qu'il y a. Et puis Antoine, qui est au jardin, chez nous, est une personne incroyable dans le sens où il a cette soif d'apprendre autant que moi et de comprendre autant que moi. Donc, chaque fois qu'il y a une plante qui ne va pas comme il veut, il va se renseigner pourquoi, il va peut-être changer la variété, d'année en année, on voit dans les assiettes ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Si même dans une variété de plantes, on en a mis 5, ben, il y en avait une qui était mieux que les autres, on va la cibler, enfin voilà. Donc, on fait quand même un travail de fond qui fait qu'en 4 ans, ça a déjà bien évolué. Mais on sait que ça n'a pas fini, quoi. C'est jamais fini.
Et puis, il y a la partie boulangerie aussi.
Ouais.
Pourquoi tu as voulu rajouter ça?
De nouveau, tu es... Parce que chez Rollinger, il avait un endroit incroyable. C'était un fournil au feu de bois.
Ouais.
Et j'ai vu ça dans cette cour. J'ai dit, ben, moi, je veux le même à la maison. Et puis, donc, dans mon premier resto, ce n'était pas faisable, forcément. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, j'avais une connaissance qui avait un four à bois chez lui. Je faisais déjà mon pain, pas du tout comme maintenant, mais je faisais déjà du pain. Et donc, du coup, je me souviens, on a rallumé son four chez lui en disant, bon, allez, on va le refaire fonctionner, voir si on arrive à sortir. C'était déjà pas mal. Mais donc, j'ai adoré ça. Tu peux pas... quand tu as touché à ça, tu sais pas faire autrement que d'en vouloir un, quoi. C'est impossible. Ouais. Parce que c'est tout un boulot. Ça implique tellement d'éléments qui sont liés à la nature, mais qui sont aussi liés à une atmosphère, que c'est fun de faire du pain. Et du coup, quand j'ai repris ici, un des trucs où j'aurais jamais voulu passer à côté, c'est le four avant l'ouverture. Il fallait que le four soit prêt.
Excellent.
Donc voilà. Donc là, je me suis mis à maçonner pendant 2 semaines, construire tout le four.
Ah oui.
Et puis autour du... donc le four était prêt. Puis au-dessus, on a mis un abri pour quand même pouvoir travailler à l'abri, mais qui était rudimentaire. Enfin, c'était un bel abri, mais très simple.
Ouais.
Ça a duré 1 an. Puis on a eu le Covid. Donc du coup, pendant le Covid, on a décidé de retaper tout ce qui était autour du four pour en faire un atelier de boulangerie. Ne fût-ce que pour nous, mais aussi surtout pour la suite.
Ouais.
Et du coup, une fois que cet atelier est né, on a ouvert la boulangerie. Mais dans les petits papiers d'Orchamps, le but n'était pas de faire une boulangerie.
Ouais, ouais.
Et puis après, faire de la boulangerie, c'est une passion. Et en même temps, je suis autodidacte là-dedans. Donc le pain, je l'ai appris à le maîtriser et à le comprendre beaucoup. Parce que j'ai des boulangers qui, quand ils viennent chez nous... Enfin, parce qu'il y a un boulanger ou une boulangère ici qui travaille pour moi, qui fait cette partie-là.
Ouais.
Mais tout son travail, je sais le faire et j'essaie de lui transmettre ce que moi je connais. Et elle est très douée, donc ça va vite. Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de particulier, quoi. C'est pas quelque chose de mathématique, le pain. Et donc, du coup, ça en devient quelque chose de passionnant. Et puis, il y a tous les à côté... que ce soit à la viennoiserie, tant que ça touche à l'univers du pain, c'est quand même un terrain de jeu assez vaste, quoi.
T'as toujours ce besoin d'apprendre de nouvelles choses ?
Ah ouais, moi, dès que c'est trop monotone ou que... Enfin, les menus chez nous, j'essaye toujours de faire de nouvelles choses.
Ouais.
Ça fait 4 ans et 8 menus ou 9 menus par an, et il y a toujours de nouveaux trucs dedans. Après, tu te casses parfois la pipe, mais c'est le but aussi.
Ouais.
Il y a des clients qui viennent régulièrement et disent chez vous on mangera jamais 2 fois pareil, c'est important, parce que sinon tu t'emmerdes d'aller au resto à manger la même chose tout le temps.
Tu te considères plus comme un chef ou comme un entrepreneur?
Un chef, ouais, parce que j'ai fait des choix dans mon entreprise où tu pourrais dire de prendre plus de monde en cuisine et toi avoir un rôle en retrait. Ouais. Moi c'est l'inverse, je préfère garder ma place en cuisine, même si c'est pour le moment c'est un peu prenant, mais avoir des gens qui sont chacun qualifiés dans d'autres aspects de ton entreprise où toi soit ça te fait chier, soit c'était moins bon qu'eux.
Ouais.
Et ils font ça très bien, donc
oui, c'est important de bien savoir s'entourer.
Ah ouais, ça c'est une leçon que j'ai appris à tout le monde. Apprend ça dépend, après c'est de le comprendre, mais ouais, d'office c'est hyper important. J'ai ma femme qui est quand même toujours là pour les moments compliqués, pour la com, pour tout ça. Et si le restaurant en marche, c'est aussi grâce à ça. Antoine en a parlé. Puis après, il y a quand même chaque ingrédient d'une entreprise, mais aussi d'un restaurant. S'il y en a un rouage qui est pas bon, ça se ressent. Donc il faut se battre pour que tout s'emboîte bien, quoi.
Ça vous a fait peur à ta femme et toi de travailler ensemble, ne fût-ce que sur l'aspect aussi financier, quoi, d'être à deux dans un projet comme ça en tant qu'indépendant?
Oui et non, parce que je pense qu'on a des chemins de vie différents et des objectifs de vie différents, mais en même temps, il y a plein de routes qui se croisent, et ouais. C'est ça qui est quand on a compris ça, c'est moi, je n'exigerai jamais d'Aurélie certaines choses, parce que ce n'est pas dans son tempérament, et elle m'apporte en retour d'autres choses où moi, j'ai besoin de ça sans vraiment le savoir. Et dans l'autre sens, je pense que moi, je lui amène une certaine stabilité et puis même un côté, enfin, une oreille aussi, parce que voilà, on parle beaucoup, quoi. Mm-hmm. C'est important, surtout quand on bosse ensemble.
Ouais.
Et on se dit les choses. Si on n'est pas d'accord, on le dit. Et si on... Enfin, voilà, c'est mm-hmm. important.
Et hors champ, c'est aussi bien plus qu'un restaurant et tout ce dont on a déjà parlé. C'est aussi vous organiser des événements comme voilà un marché de Noël bientôt. Il y a aussi des dimanches avec le yoga, un atelier de broderie, etc. C'est important de se diversifier et de proposer comme ça, enfin, quelque chose de complet, quoi, une expérience complète en fait aux personnes qui viennent.
Ouais, c'est hyper important et ça. On parlait du local et ouais. ça me remet au centre du débat. L'importance d'avoir un lieu comme celui-ci dans un village.
Ouais.
Parce que tu peux avoir un restaurant, on parlait des étoiles, mais c'est pour un peu stigmatiser ou faire un cliché, mais tu peux avoir un restaurant 2 étoiles dans ton village, ouais. Le trouver très beau de loin, mais ne jamais y aller,
ouais.
Et du coup, avoir un regard parfois un peu même, soit d'incompréhension, soit déplacé par rapport à ce qui peut être fait là-bas, dire c'est que pour les riches, c'est mm-hmm. rien. Or, le mec est peut-être très ouvert à la discussion et peut-être même faire un travail de fond pour faire vivre le commerce local, mais tu ne le sais pas. Sauf qu'ici, on a la chance de toucher un public qui vient parfois de loin. On a beaucoup de néerlandophones, enfin voilà.
Ouais.
De plus en plus, parce que forcément, le travail qu'on fait de fond est quand même intéressant.
Ouais.
Mais on veut, grâce à ce qu'on crée chez nous, on garde cette dimension de proximité. Mmh. Et ça, c'est à la base parce que du coup, nous, ça nous humanise beaucoup plus par rapport à, au fait qu'on est, oui, on est des entrepreneurs et on fait un business avec des guillemets, mais on fait travailler un tas d'étudiants du village. On a, on crée des liens. On a la boulangerie qui est finalement un espèce de pôle pour ceux qui veulent venir chercher leurs produits chez nous. Et puis après, à travers les événements qui vont dans tous les sens, avec tous les styles, en fait, c'est vraiment les familles qui viennent profiter du lieu. Et ça, c'est super gai à voir. Ouais. Quoi. Quand on fait les pizzas, y a 400 pizzas vendues sur la journée, tu as des centaines de personnes qui viennent et qui se posent. Quand il fait beau, c'est incroyable. Mmh. Tout le monde est mis comme s'ils étaient en pique-nique dans le jardin. Et puis, c'est un moment de partage et de fête. Quoi.
Ouais.
On a fait le marché de Noël, c'est pareil, c'est dans la région, on essaie, nous, de mettre en avant des créateurs qui sont intéressants, éthiquement, qui sont dans nos valeurs. Et tout ça fait que le marché de Noël a une dimension plus juste par rapport au côté juste commercial de la chose. Et puis la récréation, c'est le week-end médiéval aussi, qu'on a déjà fait 2 ans de suite. Et cette année, ça a été super aussi. Parce que là ça nous demande énormément... C'est des gros préparatifs. On en a tiré un certain... Enfin, on a été rentable cette année-ci, mais c'est immerger les gens dans une atmosphère qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Mmh. Quoi. Donc ouais, c'est hyper important.
Et t'es content de pouvoir proposer tout ça dans ta région d'origine ?
Ouais, à fond. Ouais, même les projets futurs, c'est de remettre un café de village, bistrot, brasserie, vraiment avec une cuisine... un troquet, quoi.
Ouais.
Mais hyper qualitatif, mais
excellent.
Pour de nouveau, recréer une atmosphère de village, quoi. Donc ça, dans beaucoup de villages, il n'y a plus rien qui se passe, plus de boulangerie, plus de boucherie, plus de petits magasins et tout ça. Si on peut être, d'une certaine manière, un des acteurs qui redynamise le village d'Ernage, qui est déjà, je tiens quand même à le dire, un des villages peut-être les plus dynamiques de la région, ouais. Mais donc voilà, c'est important, quoi.
T'as d'autres projets comme ça pour le futur ?
En privé, oui. Avoir peut-être des enfants et tout ça. Ça je pense que oui. Professionnel, c'est maintenir le cap, déjà. On en a parlé, terminer ce projet-ci déjà, ce qui n'est pas encore fini. Et après, ouais, c'est des petits trucs, quoi. Mais mon épanouissement personnel, il est dans ma vie privée et ma vie pro, mais c'est quand même tourné autour de ce qui se passe ici. Ouais. Après, j'ai pas envie de m'étendre ou de faire des trucs dans d'autres villes. Enfin, ça, c'est pas mon délire. Ouais. Moi, je veux créer un univers et un espace ici qui est déjà bien assez grand. Et puis après, je m'arrêterai, je pense, là, parce que c'est pas... s'éparpiller, faire du consulting, faire des trucs. Ouais. Parce que financièrement, c'est vrai que ça aide. Mais c'est pas spécialement... Je dis pas que je le ferai pas un jour, hein, mais c'est pas spécialement mon objectif, quoi.
Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait?
Dans n'importe quel
domaine, privé, professionnel.
Qu'est-ce que j'aurais? Oh purée. Ouais, ben c'est peut-être très bizarre de dire ça, mais ça a un rapport avec toute la discussion qu'on a eue au début. J'aimerais bien être un ambassadeur en fait de toute cette période un peu noire qu'on traverse et de pouvoir aller cogner aux bonnes portes et de faire bouger les choses. Ça, si je pouvais le faire, je le ferais. Mais parce que j'ai un côté un peu militant, je crois.
Ouais.
Tu vois. Mais bon, c'est plus le temps, je sais que c'est énergivore et donc je me préserve en commençant pas ça.
C'est une question de temps aussi pour l'instant.
Ouais, mais je pense que c'est important. Enfin, faire bouger les choses, là je me sens un peu passif par rapport à ça. Et je me dis, faire bouger les choses par rapport à tout ce qui tourne pas trop rond, ce serait bien.
Trop bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.